On aura tout. Un feuilleton théâtral d'Anne-Laure Liéchois et de Christiane Taubira en direct du Festival d'Avignon In, enregistré au Jardin Sécano.
Il existe une expression primordiale de l'égalité, c'est que nul ne peut, plus que qui d'autre, faire le monde à son idée ou à son image et nous l'imposer. Nous habitons la terre, nous habitons un pays qui s'appelle le théâtre.
Bonne écoute à tous sur l'écho des planches.
Que l'attente et la bonté à pouvoir soutenir durablement le regard. Même la beauté, il est faux à quelque instant. Sans doute parce que l'attente absolue, comme la beauté absolue, ne se rattachant l'une comme l'autre à rien, l'une ne se comble de rien quand l'autre ne s'épuise en rien. Cet extrait de Partition noire et bleue de Moncho Achi, poète et artiste martiniquais. L'attente, la bonté, c'est dans cet état d'esprit que je suis entrée dans la préparation de cet événement. J'ai pensé ma participation comme un acte d'amour. Mais on ne lance pas l'amour au vent. Je savais donc bien qu'à l'occasion de ces rendez-vous, cet amour viendrait se poser dans le creux de vos oreilles, dans la paume de vos mains, dans les plis et les replis de vos esprits, dans les recoins de vos cœurs. Et c'est ce que transporte la voix des comédiennes et des comédiens qui vous font ces lectures depuis le 8 juillet. Je m'adresse à vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, parce que je ne voulais pas partir sans vous le dire. J'ai éprouvé un immense plaisir, un immense bonheur à venir vous retrouver tous les midis dans ce jardin avec ses arbres centenaires, sa bibliothèque, médiathèque hospitalière, livrée cardinalis, et son sapin, que j'ai cru d'abord artificiel, synthétique en plastique, et qui est bien végétal. Et bien entendu, ses cigales, avec leur chant perçant. Depuis hier, elles sont discrètes. Elles attendent la fin de l'épisode. Nous sommes assez accommodants avec les cigales. Moi, la première. Si c'était des chanteurs, il y a longtemps que nous leur aurions dit qu'ils montent trop dans les aigus. Je voulais donc vous prévenir que je m'en vais, prendre le temps de vous dire au revoir et de vous dire merci pour la semaine écoulée, mais pour la semaine qui vient, parce que les lectures se poursuivront. Et Anne-Laure restera avec vous, parmi vous, avec les comédiennes et les comédiens. Marianne Echette aussi, déléguée générale de la Fondation SNCF Partenaire, restera aussi avec vous. La présidente de la Société des auteurs et compositeurs restera aussi avec vous. Surtout les comédiennes, les comédiens, les professionnels, les frais diplômés du Conservatoire national d'art dramatique et tous les amateurs savent ce que cela représente de venir lire chaque jour devant vous. Moi, je vous dis merci. Merci pour votre présence. Merci pour la qualité de votre écoute. Merci pour votre disponibilité au sujet, même lorsqu'ils sont rudes. Pour votre réceptivité aux auteurs, même lorsqu'ils sont abrupts. Pour l'intelligence et la finesse avec lesquels vous avez reçu ces textes, en percevant ce qu'ils ont parfois de contextuel, mais ce qu'ils peuvent contenir aussi d'intemporel. Merci pour ces belles vibrations que vous nous avez renvoyées en accueillant ces lectures. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Il est, paraît-il, des fontaines de jouvence qui promettraient de se défier du temps. Moi, peu m'importe le temps. Chaque jour, chaque midi, j'ai plongé avec vous
dans une fontaine de joie et d'émotions diverses. Et je crois que c'est quand même la meilleure condition pour conserver un cœur jeune et impatient. Durant toute cette semaine, nous avons partagé des textes sur des sujets, sur des causes qui nous tourmentent ou nous intriguent ou nous hèlent. Samedi dernier, je vous avais promis de parcourir nos combats de femmes, nos regards de femmes sur le monde à travers le temps, en faisant quand même un peu de place au regard des hommes, dont je vous disais qu'ils pouvaient s'avérer idiots, condescendants ou même consternants. Vous devez reconnaître que j'ai tenu parole parce que nous avons entendu quelques inepties bien sonores. Elles avaient été effectivement prononcées et par des hommes réputés intelligents et cultivés. Mais j'ai entendu une légitime protestation par là. C'était une voix grave d'homme contrarié. Et je conviens volontiers qu'effectivement, il y eut toujours des hommes dans ces combats pour l'égalité des femmes. Qu'il y eut toujours des hommes aux côtés des femmes, avec les femmes, et parfois selon les circonstances sociologiques et culturelles et politiques, au-devant même des femmes. Il y en eut et il y en a encore. Mais nous savons tous que ce combat n'est pas achevé. Nous savons tous que la liberté et l'égalité des femmes ne sont pas une évidence pour tout le monde, qu'elles ne vont pas de soi. Et c'est pour ça que justement nos hommes, nos pères, nos frères, nos fils sont à nos côtés pour faire rempart et empêcher ces régressions. Certaines d'entre elles sont tapageuses, mais il arrive souvent qu'elles soient sournoises. Nous continuerons donc, ensemble, femmes et hommes. Nous avons navigué assez longuement dans des basses eaux, notamment celles de la condition difficile du travail pénible. Nous avons fait un clin d'œil avec l'éloge de l'oisiveté, mais la plupart des textes témoignaient du travail aliénant qui abrutissait au XIXe siècle des hommes, des femmes, des enfants. Et dans la description de leurs effets, de leurs conséquences, il nous est arrivé d'entendre étrangement résonner des effets encore contemporains en ce XXIe siècle. Nous avons navigué également dans les eaux houleuses de nos colères et de notre honte face au sort réservé aux personnes réfugiées et à certaines paroles proférées. Nous avons piaffé sur tous les rivages de tous les continents pour dire notre attachement à cette grande merveille ronde qui coule à travers l'espace, la Terre. C'est la définition du poète Walt Whitman. Nous avons voulu dire qu'il était possible d'être très attaché à la Terre, notre amour pour la Terre, celle que nous partageons, celle que nous habitons ensemble, et de le faire sans les mots pernicieux et fétides de la Terre et des morts, façon Maurice Barrès. Non, nous pouvions le faire, au contraire, sur le ton, avec des mots, avec des chiffres, avec des fantaisies, avec des abus aussi, mais avec ces mots qui racontent la vie, nos habitudes, nos gaspillages, nos inconséquences. Nous avons pu user ainsi des mots. Les mots, c'est bien connu, ne servent pas seulement à créer du sens, nous dit Maryse Condé. Ils jouent, ils font l'amour, ils composent une musique. C'est pour ça que nous avons pu, sans grandiloquence, dire notre attachement à la Terre et dire surtout que nous voulons la rendre plus habitable, plus fraternelle. Et puis nous avons navigué aussi dans les eaux calmes de l'indifférence aux personnes exclues, celles qui se retrouvent sans toit, sans emploi, sans voix et sans égard, mais qui ne sont pas sans dignité. Celles-là, celles-ci, ceux-là, ceux-ci, qui sont de ceux qui jamais n'ont cessé d'être et à qui il faut restituer le parfum fort du rythme des heures claires et de Léon Gontran Damas. Tous ces sujets disent à quel point nous sommes soucieux des autres, de la vie, et tous ces auteurs, ces grands auteurs, nous accompagnent pour maintenir notre conscience, nos consciences en éveil. N'en déplaise à ceux qui croient que l'on peut enfermer le quotidien des gens dans des courbes et dans des pourcentages. Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres, des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une. Celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Et puis nous avons continué à voguer. Nous sommes partis en haute mer, en remontant l'histoire longue et lente de la peine de mort et de son abolition en France. Et vous étiez là, attentifs. Et ce qui était si lourd, s'allégeait parce que nous le portions ensemble. Et nous savons que vous serez encore là pour donner force à ce combat pour l'abolition universelle de la peine de mort. Qu'elle soit supprimée partout, dans ces pays dont les délégations font belle figure aux assemblées de l'Organisation des Nations Unies ou sur les photographies sur tous les perrons. Mais ces pays où l'on exécute des délinquants, des criminels, des amoureux, des journalistes, des poètes, des artistes, des adolescents, des malades mentaux. Ah, cette supplique de François Villon. Frères humains qui, après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous. Merci. Vous nous voyez si attachés, 5-6. Quant à la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée et pourrie. Et nous les os, devenant cendre et poudre, de notre mal, personne ne s'en rit. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Et pourtant, malgré cette supplique poignante qui nous parvient à travers les siècles, nous, frères humains, ce n'est pas au nom de la miséricorde que nous voulons éradiquer la peine de mort. C'est parce que la vie est sacrée, c'est parce que la justice des hommes est faillible, c'est parce que le procès pénal n'est pas la vengeance, c'est parce que, aussi, pour les victimes, les familles de victimes, comme le père d'Albert Camus vomissant après avoir assisté à une exécution. Les victimes, les familles de victimes, nous savons que ce n'est pas par le crime contre le crime que la justice rend les hommes meilleurs. Que c'est lorsqu'elle est juste, lorsqu'elle amende, lorsqu'elle éduque, que la justice nous protège et apporte la paix. Il se peut que je leur déplaise en peignant la réalité. Mais si j'en prends trop à mon aise, je n'ai pas à m'en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non l'auvent, s'il continue de m'apparaître, comment puis-je faire autrement? Je ne chante pas pour passer le temps. Vous avez reconnu Jean Ferrat. Alors aussi. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir, je veux vous dire merci. Merci pour tout le temps que j'ai passé avec vous. Vous m'avez apporté beaucoup de bonheur ici dans ce jardin, mais aussi dans les rues d'Avignon. Chaque fois que je me suis arrêtée pour vous parler, et cela m'a mise souvent en retard, je m'attardais volontiers parce que je voulais cueillir ces moments de grâce à travers vos sourires, vos regards, vos mots, vos encouragements, vos remerciements, vos projets, vos intentions, vos suggestions, vos confessions. C'était pour moi un moment très très chaleureux qui rappelle à quel point chacune est précieuse, chacun est précieux, chacune est singulière, chacun est singulier. Et que l'humanité n'est pas une abstraction, c'est ce tout contenu dans la parcelle que nous sommes chacune, chacun. Un épi est tout le blé. Une plume est un oiseau vivant qui chante. Un homme de chair est un homme de rêve. La vérité est indivise. Et le tonnerre proclame les hauts faits de l'éclair. C'est d'Octavio Paz, un poète mexicain. Je vais donc vraiment vous dire au revoir. J'ai du mal à vous quitter. Je vais m'en aller en sachant que vous allez continuer à venir pendant une semaine dans ce beau jardin. Vous serez évidemment reçus par ces cigales bavardes qui ont recommencé. De mon Amazonie, en forêt, en mer, en ville aussi, je penserai à vous. Mon cœur sera à la fois là-bas et ici. Et puis, surtout, je saurai que nous continuons à partager des inquiétudes, des préoccupations, mais aussi profondément un espoir et de l'optimisme. À vous et pour partir vraiment, et particulièrement aux jeunes filles et aux jeunes gens, que l'éducation prépare à défricher leur propre chemin de vie. Je veux offrir ce poème d'André Chédide. J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie. Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, planté des flambeaux à la lisière des nuits. Des clartés qui persistent, des flambeaux qui se glissent entre ombres et barbaries. Des clartés qui renaissent, des flambeaux qui se dressent sans jamais dépérir. J'enracine l'espérance dans le terreau du cœur. J'adopte toute l'espérance en son esprit frondeur. Merci.
Tu veux dire La République, le livre ?
Ouais.
Comment tu connais ça, toi ?
Je suis en train de le lire.
Non.
Bah si, pourquoi ?
Et qui c'est qui t'a conseillé ça ?
C'est ma grande sœur.
Elle fait de la philo, ta grande sœur ?
Elle est biologiste.
Oh, c'est bien, ça.
C'est du narratif, alors, La République ?
Bah non. En fait, ce serait plutôt de l'argumentatif.
Ah.
Tu vois, qui c'est Socrate, là, le type qui parle tout le temps, là ?
Oui, c'est tout en lui qui parle, c'est trop marrant.
Bon, ben, en fait, lui, c'est un personnage inventé, enfin, on sait pas trop. Donc là-dessus, on peut dire que c'est comme un personnage.
Il a un peu existé ?
Ben oui, mais non, enfin, bon, ça, c'est pas plus important. Le but, c'est surtout qu'il parle de plein de choses avec les gens qu'il rencontre.
Oui, il arrête pas, c'est trop bien.
En fait, Socrate, c'est un type, il arrive sur l'Agora. L'Agora, c'est une sorte de place là où ils sont tous là. Et il écoute les gens et après il leur dit Hé, toi, qu'est-ce que tu viens de dire là ? T'es sûr que c'est vrai ce que tu viens de dire ? Des choses comme ça.
Oui, c'est comme ça qu'il fait, j'adore.
Bon, et voilà, bah, ils discutent. C'est comme de l'argumentation. Quoi.
D'accord.
C'est vachement bien, dis donc, que tu lises ça. Tu comprends ce que tu dis ?
Oui, ça va. Merci, monsieur. Au revoir.
La crise de l'enseignement n'est pas une crise de l'enseignement. Il n'y a pas de crise de l'enseignement. Il n'y a jamais eu de crise de l'enseignement. Les crises de l'enseignement ne sont pas des crises de l'enseignement. Elles sont des crises de vie. Elles dénoncent, elles représentent des crises de vie et sont des crises de vie elles-mêmes. Elles sont des crises de vie partielles, éminentes, qui annoncent et accusent des crises de la vie générale. Ou si l'on veut, les crises de vie générales, les crises de vie sociales s'aggravent, se ramassent, culminent en crise de l'enseignement, qui semble particulière ou partielle, mais qui en réalité sont totales, parce qu'elles représentent le tout de la vie sociale. Le reste d'une société peut passer, truqué, maquillé. L'enseignement ne passe point. Quand une société ne peut pas enseigner, ce n'est pas qu'elle manque accidentellement d'un appareil ou d'une industrie. Quand une société ne peut pas enseigner, c'est qu'une société ne peut pas s'enseigner. C'est qu'elle a honte. C'est qu'elle a peur de s'enseigner elle-même. Pour toute l'humanité, au fond, enseigner, c'est s'enseigner. Une société qui ne s'enseigne pas est une société qui ne s'aime pas, qui ne s'estime pas.
Monsieur l'instituteur, la loi du 28 mars 1882 se caractérise par deux dispositions qui se complètent sans se contredire. D'une part, elle met en dehors du programme obligatoire l'enseignement de tout dogme particulier. D'autre part, elle y place au premier rang l'enseignement moral et civique. L'instruction religieuse appartient aux familles et à l'Église, l'instruction morale à l'école. En vous dispensant de l'enseignement religieux, on n'a pas songé à vous décharger de l'enseignement moral. C'eût été vous enlever ce qui fait la dignité de votre profession. Au contraire, il a paru tout naturel que l'instituteur, en même temps qu'il apprend aux enfants à lire et à écrire, leur enseigne aussi ces règles élémentaires de la vie morale qui ne sont pas moins universellement acceptées que celles du langage ou du calcul. Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir.
Au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire, sinon parlez hardiment. Car ce que vous allez communiquer à l'enfant, ce n'est pas votre propre sagesse, c'est la sagesse du genre humain. C'est une de ces idées d'ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l'humanité. Une fois que vous vous êtes loyalement enfermé dans l'humble et sûre région de la morale usuelle, que vous demande-t-on ? Des discours ? Des dissertations savantes ? De brillants exposés ? Un docte enseignement ? Non ! La famille et la société vous demandent de les aider à bien élever leurs enfants. C'est dire qu'elles attendent de vous non pas des paroles, mais des actes. Non pas un enseignement de plus à inscrire au programme, mais un service tout pratique. Une seule méthode vous permettra d'obtenir les résultats que nous souhaitons. C'est celle que le Conseil supérieur vous a recommandée. Peu de formules, peu d'abstractions, beaucoup d'exemples et surtout d'exemples pris sur le vif de la réalité. Ces leçons veulent un autre ton, une autre allure que tout le reste de la classe. Je ne sais quoi de plus personnel, de plus intime, de plus grave. Il dépend de vous, monsieur, j'en ai la certitude, de hâter par votre manière d'agir le moment où cet enseignement sera partout, non pas seulement accepté, mais apprécié, honoré, aimé comme il mérite de l'être. Alors, la cause de l'école laïque sera gagnée. Recevez, monsieur l'instituteur, l'expression de ma considération distinguée. Le président du Conseil, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Jules Ferry.
Les élèves interrogent Nasreddin Hoxha, leur instituteur. Maître, quel homme a le plus de valeur ? Celui qui conquiert un empire par la force ? Celui qui peut le conquérir mais qui se l'interdit ? Celui ou celui qui empêche un autre de s'emparer d'un tel empire ? Perplexe, le Hoxha répond : je n'en sais rien. Mais je sais quelle est la tâche la plus difficile au monde. Laquelle ? Demandent les élèves, de vous apprendre à voir les choses telles qu'elles le sont réellement.
Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire, à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à lire une addition et une multiplication. Ils seront hommes, et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. Il faut qu'ils sachent quelle est la racine de nos misères, l'égoïsme aux formes multiples. Quel est le principe de notre grandeur, la fermeté unie à la tendresse. Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine, domptant peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l'instinct. Et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme, en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie, et aussi notre force. Car c'est par lui que nous triompherons du mal, de l'obscurité et de la mort. Et quoi ? Tout cela a des enfants ? Oui, tout cela. Si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épeler. Comment donnerez-vous à l'école primaire l'éducation si haute que j'ai indiquée ? Il y a deux moyens. Tout d'abord, que vous appreniez aux enfants à lire avec une facilité absolue, de telle sorte qu'ils ne puissent plus l'oublier de la vie et que dans n'importe quel livre, leur œil ne s'arrête à aucun obstacle. Savoir lire sans aucune hésitation, comme nous lisons vous et moi, c'est la clé de tout. Sachant bien lire, l'écolier, qui est très curieux, aura bien vite, avec 7 ou 8 livres choisis, une idée très haute de l'histoire de l'espèce humaine, de la structure du monde, de l'histoire propre de la Terre dans le monde, du rôle propre de la France dans l'humanité.
Y a-t-il des mots que vous reconnaissez sans savoir les lire ?
Il y en a 3. Les mots des stations de métro que je prends tous les jours. Lila et Châtelet et mon nom de jeune fille, Roussel.
Comment les voyez-vous ? Comme des dessins ?
Si vous voulez, comme des dessins. Le mot lila, il est haut presque comme il est large. Il est joli. Le mot châtelet, il est trop allongé. Je trouve qu'il est moins joli. Il est bien différent du mot lila à voir.
Lorsqu'il vous est arrivé d'essayer d'apprendre à lire, cela vous a paru difficile ?
Vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est quelque chose de terrible.
Il vous est très difficile de vivre à Paris, n'est-ce pas ? De vous déplacer.
Quand on a une langue, on peut aller à Rome.
Comment faites-vous ?
Il faut demander beaucoup et réfléchir.